Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchel.
19h18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le fondateur du think tank Génération Libre. Bonsoir, Gaspard Koenig.
Bonsoir, Marc-Olivier.
Votre dernier livre, là, Le révolutionnaire, l'expert et le geek, combat pour l'autonomie, qui vient de sortir chez Plon. On refait le monde ce soir également avec Gérard Miller, psychanalyste. Bonsoir.
Bonsoir.
J'allais dire docteur, mais je me fais rappeler à l'ordre par les tweets. Vous n'êtes pas docteur.
Non, psychanalyste non médecin, psychanalyste laïque.
Laïque, très bien. C'est encore mieux. On refait le monde ce soir avec l'éditorialiste au Figaro. Bonsoir, Yvan Youfol.
Bonsoir.
Et Alain Diamel nous a rejoint. Rebonsoir, Alain.
Rebonsoir.
Big Brother is watching you. C'est la peur de Marc Trividi qui était ce matin l'invité de RTL, le juge antiterroriste. Inquiet, très inquiet, même ce matin chez Yves Calvi, du projet de loi sur le renseignement débattu à l'Assemblée nationale à partir du 13 avril, une arme redoutable qui pourrait tomber entre de très mauvaises mains. Alors pour lutter contre la menace terroriste, le gouvernement prend-il le risque d'aller trop loin au détriment des libertés publiques? Pas de réseaux sociaux toute cette semaine. Gérard Miller, pour démarrer, est-ce que vous partagez l'inquiétude de l'ex-juge antiterroriste, puisqu'il est invité ce matin d'Yves Calvi, puisqu'il abandonne ce poste-là comme lui impose la loi, puisque ça faisait 10 ans qu'il l'occupait?
Spontanément, j'aurais tendance à dire oui, et pourtant je vais dire non.
Ah.
Je vais dire non parce que, effectivement, c'est une arme redoutable dans un combat contre des ennemis redoutables, que j'ai la faiblesse de faire pour l'instant confiance à la démocratie et qu'il y a beaucoup de choses dans notre démocratie qui, entre de mauvaises mains, pourraient devenir très dangereuses. C'est pas seulement cette loi. Donc c'est vrai que on a tendance toujours à se dire « Et si un jour, je ne sais quel monstre arrivait au pouvoir, si tant est qu'il n'y est jamais arrivé jusqu'à présent, j'en suis pas sûr. » Mais je crois que là, actuellement, on a tous eu le sentiment qu'on passait à une autre étape, que la lutte qu'on devait mener contre ce qu'on appelle le terrorisme était quand même particulièrement terrifiante. Et donc, j'ai cette faiblesse, je reprends le terme de faiblesse, de faire confiance pour l'instant à ce gouvernement démocratique qui est au pouvoir. Je prends au sérieux le fait qu'il y a quand même des instances de contrôle. Tout le monde dit ça ne sera pas suffisant, ça ne se contrôlera pas vraiment. Essayons vaguement de faire contrôle, de faire confiance à cette instance de contrôle.
Gaspard a l'air consterné.
Ah oui, moi je ne fais pas du tout confiance au pouvoir central, quel qu'il soit, et même si ses mains sont excellentes, il ne faut jamais lui donner les moyens de surveiller les citoyens. C'est l'occasion de rappeler cette formule de Benjamin Franklin que beaucoup connaissent, mais qui devrait être au fronton de nos édifices. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Ne mérite ni l'une ni l'autre, tout simplement parce que en renonçant à nos libertés, nous renonçons à nos valeurs et nous renonçons à ce que nous avons de plus précieux, nous renonçons à nos droits fondamentaux. Et là, ça veut dire que nous avons déjà finalement, que nous avons déjà perdu face à ceux qui nous attaquent. Fini par perdre les deux parce que personne ne réagit. C'est incroyable la passivité de l'opinion, de la population, du corps politique évidemment qui n'est plus du tout habitué à utiliser l'argument de la liberté. Vous savez, en Espagne, il y a une loi qu'ils appellent la loi Bayon. Un contexte un peu différent. Enfin, il y a une opposition, il y a des manifestations. Où sont les manifestations en France? Et quand vous regardez le détail de cette loi qui a été justement dénoncé par Human Rights Watch, qui généralement dit pas de bêtises, et qui disent c'est un risque d'ouvrir la voie.
Dit pas de bêtises, Alain Diamel,
vers une société de surveillance.
Ne partage pas ce point-là, déjà, mais allez-y.
Mais alors, quand on regarde les détails de cette loi, vous voyez que les motifs qui justifient le déclenchement de la surveillance, qui est, je rappelle, une surveillance sans contrôle préalable du juge, c'est-à-dire que le Premier ministre ou le cabinet du Premier ministre peuvent décider d'eux-mêmes, les motifs de cette surveillance sont très flous. Alors on a par exemple intérêt économique et scientifique essentiel. Bon, alors nous, par exemple, dans mon think tank, nous dénonçons régulièrement la Banque publique d'investissement. Certains pourraient considérer que c'est un intérêt économique essentiel et donc nous mettre sur écoute sans contrôle du juge.
Alors, ce que pointe Gaspard Koenig, Gérard, et puis ensuite on fait tourner la parole, évidemment, c'est ce que
ça,
dit
c'est
Marc.
Gentil.
Oui, mais on a un peu de temps. Ce soir, c'est ce que dit Marc Trévidic, c'est que cette loi est tellement mal ficelée, elle est trop large et donc elle permet une utilisation qui en serait détournée. Elle est mal, elle n'est pas assez ciblée, cette loi.
Tout ce que vous avez dit, j'aurais envie d'y souscrire, je pourrais le préciser un peu plus, et en même temps, je pense qu'il n'était pas si simple que ça de définir de façon très précise si on parle de terrorisme, si on parle de meurtre, si on parle de choses abominables, alors là, la police interviendra. Vous avez raison de dire que c'est fait sans contrôle du juge, puisque c'est toute, oui, c'est toute la fonction de la loi, c'est d'intervenir rapidement avant un processus qu'on considère comme lent. Moi, je fais confiance au contrôle après coup. Vous allez me dire, il vaudrait mieux qu'il y ait ce contrôle avant, mais le contrôle aura lieu après.
Mais et s'il y a des abus... On peut ne pas savoir qu'on est mis sur écoute.
Alors, vous savez très bien que jusqu'à présent, c'est quand même ce qui se passe.
Le principe de cette loi, c'est qu'on peut garder les gens.
Heureusement oui, qu'on peut ne pas savoir.
Mais quand il s'agit de combattre le terrorisme.
Que là, visiblement, il n'y a pas de limitation de durée. C'est-à-dire qu'on peut vous laisser sur écoute pendant plusieurs années.
Est-ce que vous êtes sensible au fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement sans qu'il y ait de loi pour les encadrer? Ça se passe déjà actuellement. Il ne faut pas être naïf en la matière. Donc,
c'est pas une bonne raison.
Mais d'accord, je suis d'accord que ce n'est pas une bonne raison. Mais on vit malheureusement dans un monde. Moi, j'ai tenu ce même discours que vous pendant des années. Je considère que si aujourd'hui, il n'y a pas du nouveau avec ce qui s'est passé ces derniers temps, alors OK, continuons comme avant.
Mais cette loi est en préparation d'ailleurs avant les événements de janvier.
Alors, en tout cas, il y a un conseil du numérique qui travaille à Bercy autour de ça. Et quand on parle avec les différents membres de ce conseil du numérique, eux-mêmes, quand on parle off avec eux, se disent « Ouh là là, on est en train de mettre en place, Alain Duhamel, une loi qui peut, comme le dit Trévidic ce matin, être très mal utilisée. » Ils sont eux-mêmes inquiets en parlant d'algorithme de Google à qui on mettrait n'importe quel mot là-dedans et tout le monde pourrait être écouté pour de mauvaises raisons.
Non mais moi je comprends très bien que des experts ou des magistrats ou d'ailleurs n'importe qui soient inquiets a priori. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. Là, on parle de combattre le terrorisme. Ouais. On sait très bien que quand il s'agit de terrorisme, la question de la rapidité des informations, donc ensuite des réactions, est absolument centrale. C'est comme ça qu'on peut y arriver. Autrement, on ne peut pas y arriver. Si on est battu dans l'espace-temps, on est battu tout court. Donc, il est évident qu'il faut prévoir quelque chose qui puisse aller très vite. Si c'est quelque chose qui peut aller très vite, on ne peut pas commencer par une instruction judiciaire préalable. Ça ne marche pas, ça. Alors, bien sûr qu'il faut prendre des garanties. Mais simplement, je voudrais quand même dire, que je me méfie quand même quand des magistrats critiquent une loi qui ne leur donne pas de pouvoir supplémentaire qu'ils n'avaient pas et qu'ils voudraient avoir. Parce que dans ce cas-là, il y a une dimension corporatiste.
Alors ça, c'est pour Trévidic, mais pour les gens qui sont consultés pour cette loi...
J'ai vu qu'on avait un peu de temps, donc je continue.
Allez-y.
Deuxièmement, quand il s'agit de combattre le terrorisme, c'est normal d'aller vite, c'est normal d'aller fort, et en même temps, c'est normal de pouvoir être contrôlé. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de contrôle. Et dans cette loi, il y a un contrôle. Alors on peut dire, ah oui, mais ce ne sont pas des magistrats, ah oui, mais c'est a posteriori. D'accord, mais c'est un progrès sur ce qui existait avant. Mmh. Autrement dit, cette loi prévoit plus de contrôle qu'il n'en existait. Et enfin, je dirais qu'il faut faire un peu de psychologie politique quand même. On n'est pas dans n'importe quelle période. On voit très bien que ce qui se passe en matière de terrorisme, ça n'est pas quelque chose de banal. Et quand il y a une situation qui est difficile, ben, il faut savoir prendre des risques. Pour l'instant, en tout cas, disons que on ne peut pas dire que ça soit une régression démocratique par rapport à ce qui existait. En revanche, c'est une amélioration technique.
Yvan Ruffol, vous partagez ?
Je partage à peu près tout ce qui a été dit, avec une réserve sur ce que vous avez dit sur les atteintes aux libertés.
En parlant de Gaspard Koenig.
De Gaspard Koenig. La question que pose le juge Trévidic est en tout cas à entendre. Est-ce que la démocratie est en danger, est mise en danger par cette loi ? J'ai la faiblesse de penser que la démocratie est mise en danger par ceux que cette loi prétend combattre. Car, ça a été dit, mais je le répète, nous sommes aujourd'hui en guerre. C'est une guerre contre le terrorisme. C'est une guerre, d'ailleurs, qui mobilise des soldats. Vous avez 10 000 soldats qui sont aujourd'hui mobilisés pour défendre les citoyens. Et donc, cette guerre n'est pas anodine. Donc, elle nécessite, en effet, de l'efficacité, de la rapidité et de la surveillance permanente. En même temps, j'ai été très, très, très intéressé, même un peu surpris tout de même par le caractère dramatique qu'a employé le juge Trévidic. Mais il employait ce caractère dramatique parce qu'il voyait en effet que les juges étaient mis à la marge de ces autorités administratives qui sont là pour autoriser ces genres de procédures. Je pense qu'il a raison de nous alerter sur les manques de soupape, les manques de vigilance qu'il pourrait y avoir à des abus de pouvoir, mais ça a été dit également, nous sommes dans une démocratie et je n'imagine pas, mais peut-être suis-je naïf, je n'imagine pas qu'un pouvoir, en tout cas tel que celui-ci aujourd'hui, puisse en profiter pour aller nous...
Alors lui, il parlait de ce demain, il ne parlait pas de ce d'aujourd'hui. Hein.
Aujourd'hui, il parlait du pouvoir.
En précisant bien ce demain, il ne pensait pas, en règle générale,
Et en revanche, je suis sensible à ce que dit Gaspard Koenig. Naturellement, si ça devait enfreindre nos libertés, pour l'instant, ça n'enfreint pas nos libertés, ça les enfreindrait.
C'est même censé les protéger.
Ça les enfreindrait, en revanche, et là, je suis très critique, si cela devait aboutir à mettre sous surveillance l'Internet, car je trouve que l'Internet est une plateforme démocratique tout à fait essentielle.
C'est pour ça.
Pardon ?
C'est fait pour mettre.
Non, c'est pas fait. Oui, c'est notamment fait pour ça, mais pas fait que pour ça. C'est d'abord fait pour faire des filatures, pour faire des écoutes, etc. L'Internet vient après. Et je pense que sur l'Internet, il faut être très vigilant de ne pas mettre le doigt dans cette, dans cette entreprise de censure. Et là, effectivement, je suis contre. Mais c'est, le juge ne parlait pas d'Internet.
Il n'a mais la loi, le prévoit, en revanche.
Oui, la loi, je l'évoque, moi, pour moi, effectivement, pour en faire une critique. J'ai toujours eu cette critique sur l'Internet. Je pense que l'Internet doit rester cette libre expression et qu'un gouvernement, quel qu'il soit celui-ci, et même celui-là a beaucoup a d'énormes tendances à vouloir appliquer la censure sur la libre parole qui s'exprime sur l'Internet. Et le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, en a fait l'aveu, si je puis dire, encore assez récemment. Et
donc, je pense quoi, précisément
de mettre l'Internet sous surveillance sur des sites.
Sur des sites, notamment, qui
paraissent dangereux, mais qui paraissaient au contraire révélateurs de ce qu'est la société.
Alors, moi, je suis sur ce dernier point, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que Internet, c'est normal que Internet subissent le même régime que n'importe quelle forme d'information, n'importe quel type d'information. À partir du moment où on est dans une situation tellement exceptionnelle, c'est, à mes yeux, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est comme ça que je le ressens, aberrant d'imaginer qu'on puisse laisser sur Internet des informations être données à des djihadistes, des conseils pratiques être donnés sur la façon de construire je ne sais quel explosif, etc.
L'Internet vous permet d'identifier les dangers.
Internet n'est pas par nature plus noble que les autres médias.
Non, cela permet d'identifier...
Et n'a aucune raison de bénéficier d'un privilège par rapport aux autres médias.
Non, allez, cela permet d'identifier et de mettre des noms sur ce qui se passe dans cette société.
Oui, ça permet aussi à certains d'appeler directement et ostensiblement à détruire un certain nombre d'êtres humains. Ce qui est quelque chose qui, personnellement, me déplaît assez.
Allez, on change de sujet. À suivre, le président d'honneur du Front National qui dérape encore. Il défend le maréchal Pétain. On en débat une nouvelle fois dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
19h32 sur RTL. On refait le monde ce soir avec Gaspard Koenig, Alain Duhamel, Yvan Rioufol et Gérard Miller. Les provocations donc de Jean-Marie Le Pen, acte 2, en tout cas en deux semaines. Après ses propos jeudi dernier sur les chambres à gaz, détails de l'histoire, le président d'honneur du FN confie qu'il n'a jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître dans une interview à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. On en parlait dans le journal des 19h avec Elisabeth Martichoux. Il s'en prend également notamment aux origines de Manuel Valls. Il est français depuis 30 ans. Moi, je suis français depuis 1000 ans. Il désigne donc ces immigrés, ces enfants d'immigrés donc, qui sont au pouvoir aujourd'hui en France. Alors, que cherche pour vous Jean-Marie Le Pen, Gérard Miller, peut-être déjà dans son inconscient, dans son conscient, dans quel niveau vous situez-vous?
Oh, dans son conscient, c'est au moins
dans son surmoi, ouais.
C'est l'avantage qu'il présente, c'est d'avoir quand même toujours dit ça. Il y a un moment où sa voix s'est moins fait entendre, d'abord parce que l'âge venait, ensuite parce que la voix de Marine Le Pen était un petit peu plus forte. Mais il faut lui reconnaître cette constance. Ça a toujours été un leader d'extrême droite, pétainiste, avec dans son entourage le plus proche des anciens collaborateurs, des pro-nazis même. Donc c'est quelqu'un qui a une constance absolue. C'est frappant de voir que, sous prétexte qu'aujourd'hui ça embarrasserait, dit-on, sa fille, on a le sentiment du coup que c'est d'abord un coup politique. Je crois qu'il y a chez Le Pen, puisque vous évoquez l'inconscient et peut-être la psychanalyse, il y a ce côté, l'homme sans inhibition. Je me souviens effectivement de cette capacité qu'il avait il y a déjà 30 ans, régulièrement, sur du rafour crématoire et les autres sujets, à provoquer précisément l'opinion publique. Donc c'est quelqu'un qui ne changera pas, il faut bien dire, qui ne changera pas jusqu'à la mort.
Et Marine Le Pen, fort de tout ça, Alain Duhamel, selon vous, que doit-elle faire?
Fort de tout ça, je ne suis pas sûr que ce soit la très bonne expression. je crois que dans cette affaire... Jean-Marie Le Pen ne cherche absolument pas à apporter la moindre information nouvelle sur ce que lui-même pense. Je pense qu'il a un objectif précis, qui est d'enquiquiner sa fille. Mmh. Ça me paraît une évidence, mais presque enfantine. Il y a 15 jours, il a déjà tenu des propos que sa fille a été obligée immédiatement de critiquer. Il a été furieux. Parce que, alors là, pour le coup, le principe d'autorité chez lui est le principe patriarcal et le principe du chef du clan familial. Faut pas oublier que la famille Le Pen, c'est un clan, avec le père, la fille, la petite fille, probablement encore deux ou trois générations à venir. C'est quelque chose qui est totalement inhabituel dans le fonctionnement d'une démocratie. Et je crois qu'il a été sincèrement ulcéré par le fait qu'on osait le critiquer publiquement au sein de son propre clan. Mmh. Et donc que maintenant, il est décidé à faire jusqu'au bout tout ce qu'il faudra pour enquiquiner sa fille, quitte à ce que du coup, il ne puisse pas être, comme il le souhaitait, le chef de file du Front National dans la région PACA. Mmh.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, finalement, dans la revendication de l'héritage pétainiste par le FN. Parce qu'aujourd'hui, le FN a un programme, et là, je vais parler surtout de son programme économique, qui est un programme pétainiste. Robert Paxton, l'historien dont on parle beaucoup sur la fameuse... puisque c'est lui qui a la première fois vraiment nié la théorie du bouclier, disait aussi dans son livre, c'est de la moitié de son livre qu'on oublie toujours, que c'est Vichy qui a initié, inauguré le dirigisme à la française. L'idée que l'économie devrait être dirigée, planifiée, nationalisée. Le maréchal Pétain, son premier discours sur l'État français en novembre 40, c'est « Regardez où le libéralisme nous a menés. Maintenant, l'État va reprendre en main l'économie et la société. » Et Vichy a mis en place les structures de l'État telles que nous le connaissons aujourd'hui, à commencer par le statut de la fonction publique. Et donc, aujourd'hui, le programme du FN, c'est complètement ça. Le programme économique du FN, c'est nationaliser les banques, c'est marqué noir sur blanc, c'est des prix réglementés pour les produits alimentaires de base, et c'est une commission du plan directement rattachée au Premier ministre. Donc il y a vraiment, on est au cœur de l'héritage vichyste, à la fois sur le nationalisme et sur le dirigisme économique, et c'est très très clair.
Non, bon, je voulais simplement une petite
précision, ça n'est pas Robert Paxton qui a inauguré la théorie du bouclier. La théorie du bouclier, dès très peu de temps après la libération, Robert Aron, pas Raymond Aron, Robert Aron, quand il a écrit un livre qui était le premier livre un petit peu ambitieux et d'ailleurs très contesté et qui est un peu difficile à relire aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire. Eh bien, c'était exactement sa théorie, la théorie du glaive et du bouclier, de Gaulle, etc. C'était un thème permanent à ce moment-là.
Yvan Rioufol, vous avez entendu donc Gaspard Koenig dire que finalement tout ça est cohérent avec le FN d'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant, parce que si on cherche la paternité du vichysme dans la théorie économique du Front National, on retrouve la paternité du vichysme dans la gauche également, et singulièrement dans la gauche socialiste et dans la gauche mitterrandienne, puisque elle aussi avait été jusqu'à nationaliser les banques.
Surtout dans la gauche chevènementiste.
Oui, chevènementiste. Oui, enfin, la gauche n'est pas... Donc,
jamais entendu une histoire de nationalisation pétainiste. Quand on nationalise, on est pétainiste.
C'est une analogie qui est un peu spécieuse.
Il y avait dans les années 30, ils ont développé une idéologie qui s'appelait le planisme.
Et qui était de Henri Demant.
Oui,
connu comme le loup blanc.
J'ai bien compris votre argument.
Ils sont arrivés au pouvoir.
Il est un peu faible dans la mesure où il ne s'arrête pas simplement au Front National.
Non, je suis d'accord.
Et Henri Demant, qui a effectivement créé et lancé tout ce mouvement-là, était lui-même un socialiste défroqué.
Non, ce que vous rappelez en revanche, c'est qu'il y a effectivement un continuum entre le régime de Vichy, ce qu'on n'ose pas trop dire, le régime de Vichy, et ce qui a été ensuite pris comme par la République elle-même, avec un certain nombre de droits acquis, notamment sur l'État-providence, congés payés, je ne sais pas. Enfin bon, on en ferait l'inventaire, et l'inventaire est d'ailleurs assez déroutant. Mmh. Et donc, le régime de Vichy n'est pas à rejeter. Peut-être est-ce aussi ce que voulait dire peut-être Jean-Marie Le Pen, mais dont on voit bien qu'il brûle ses vaisseaux, qu'il est en train de tirer la révérence et de quitter la scène. Mais ça a été dit, on savait très bien ce qu'il pensait de cette période-là. C'est sa période, c'est maintenant une vieille période, mais je crois qu'il s'adresse à un monde en voie de disparition, car les nouveaux électeurs du Front National, dont on nous dit que le Front National récolte beaucoup maintenant de jeunes électeurs, de jeunes citoyens, ne connaissent pas cette période. Non seulement ils ne connaissent pas cette période, mais je fais le pari qu'ils ne savent même plus qui est Pétain. Et donc, vous savez, je suis effaré de voir l'inculture historique qu'il y a aujourd'hui, et je pense que donc il s'adresse simplement à ce petit noyau dur, mais ça, on a vu cette conversation la semaine dernière, je crois, ce petit noyau dur de l'extrême droite. Toute la question est de savoir si ce petit noyau dur de l'extrême droite, qu'il représente parfaitement, et pourquoi pas, dans le fond, il a bien le droit, s'il préfère Pétain à d'autres, très bien, mais quel est le poids politique qu'il représente. Mon sentiment est que ce poids est un poids qui va s'amenuisant, et qu'aujourd'hui son discours devient incompréhensible à sa fille, à sa petite-fille, et singulièrement également aux électeurs.
Allez, on change de sujet, à suivre, un rapport pro-gaz de schiste enterré par le gouvernement. On en débat dans un instant.
RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h42 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Alain Duhamel, Yvan Rioufol, Gaspard Koenig et Gérard Miller. Seulement 7 exemplaires. C'est un rapport donc confidentiel enterré par le gouvernement début 2014 que révèle aujourd'hui Le Figaro. Un rapport pro-gaz de schiste commandé par Arnaud Montebourg. Il préconisait l'expérimentation en France d'une technologie alternative à la fracturation hydraulique. Alors la France aurait-elle dû essayer cette nouvelle méthode? S'est-on privé d'un levier de croissance alors que pour Ségolène Royal, les gaz de schiste ne sont plus d'actualité? Alain Duhamel, on aurait quand même dû tenter, histoire de voir.
Ah ben, moi, là-dessus, j'ai en tout cas, disons, un préjugé.
Positif.
Qui est que, un, l'omniprésence du principe de précaution mort-y-pile, je trouve que c'est anti-scientifique. Deux, que je suis très étonné qu'on n'ait pas au moins fait des expérimentations pour savoir si oui ou non on a du gaz de schiste, parce qu'on en parle tous et personne n'est capable, en ce qui concerne les sous-sols français, de dire exactement où on en est. Mais il me semble que la moindre des choses aurait été quand même de se renseigner pour savoir si on les a ou si on ne les a pas. Et ensuite, s'il est vrai, alors là on entre dans les hypothèses, s'il est vrai qu'on a effectivement qu'il a été mis au point une technique qui permettait d'extraire du gaz de schiste sans la fracturation, et il faut vérifier que ça puisse fonctionner. Ça n'a pas fonctionné.
C'est toute la difficulté, absolument.
Et aucun État jusqu'à présent ne l'a pris.
Ça n'a été fait nulle part, si j'ai bien compris.
Si ça a existé, ça mérite sûrement d'être expérimenté, à mes yeux.
Ce principe de précaution, mais qui est censé...
Et puis, c'est pas bien d'en tirer les rapports,
accessoirement. Ça ne sera pas le premier.
Non, mais même si celui-là était censé être totalement confidentiel.
Le sous-sol de l'administration française est très riche de rapports.
Je parle sous le contrôle des spécialistes. Ce que j'ai compris, c'est que nulle part au monde, on a, y compris dans les endroits où on n'est finalement pas si opposé que ça au gaz de schiste,
comme aux États-Unis, par exemple.
Comme aux États-Unis, au Canada, on a tenté de faire cette expérimentation nulle part. Donc on ne peut pas reprocher à la France de ne pas avoir fait, alors que finalement ça n'a été fait nulle part où il n'y avait pas d'opposition.
Ils sont en contact avec une grosse demi-douzaine d'États et ils espèrent qu'un de ces États acceptera de faire l'expérimentation.
Et par ailleurs,
C'est quand même la base du progrès scientifique, quand on a une théorie, d'essayer de l'expérimenter à condition qu'elle ne provoque pas de catastrophe. Pourquoi chez les autres?
Non, mais je veux dire par là que...
Psychanalytiquement, c'est assez intéressant chez les autres.
Moi, j'attendrai de voir.
Beaucoup.
Je trouve ça pas mal de l'avoir enterré. Je préférerais que d'autres expérimentent ça s'ils sont tellement fanatiques.
Le problème, c'est que la fracturation hydraulique elle-même.
On est tous d'accord pour dire qu'il faudrait davantage d'énergie renouvelable et qu'il ne faut pas maltraiter la Terre. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas. Moi, je n'y vois pas l'application absurde d'un principe de précaution. J'y vois l'application absurde d'une idéologie et d'une politique fermée sur elle-même. Parce qu'en fait, si le gouvernement a enterré ce rapport, ce n'est pas tellement parce qu'il ne voulait pas entendre parler de ces expérimentations, c'est parce qu'il a voulu, il a craint de déplaire à Madame Duflot et aux Verts, qui représentent 2% de l'électorat.
Ça a joué, ça c'est vrai.
Mais ça a joué énormément, et ça a joué d'autant plus que le gouvernement est maintenant tellement affaibli qu'il ne peut même pas se permettre de fâcher ces Verts qui ne représentent quasiment plus rien.
Ça a peut-être joué, mais c'était peut-être pas essentiel.
Je vois ça comme étant essentiel, au contraire, et je pense que le gouvernement est immobilisé aujourd'hui à cause de cette faiblesse et à cause de cette impossibilité qu'il a de fâcher et les Verts d'un côté et les frondeurs de l'autre, dont on s'aperçoit d'ailleurs que Martine Aubry, qui en était un des leaders, vient de se faire éjecter du Nord, et donc qui ne représente rien électoralement, et qui empêche aujourd'hui le Parti Socialiste et la France d'essayer, ne serait-ce que de voir, effectivement, de comprendre que nous sommes assis sur un tas d'or, car c'est bien de
ou
ce
peut-être
système.
Pas.
Le rapport le dit, on est assis sur un tas d'or, il y a des projections qui montrent qu'effectivement ça pourrait...
On
n'en est pas sûr, mais en tout cas, c'est quand même bien...
Il y a des pays dans lesquels on s'est complètement trompé.
Mais le rapport
en question... Il y a des pays qui ont fait de l'expérimentation avec fracturation et qui se sont aperçus
que c'était... Le rapport en question montre qu'il y a là un gisement d'emploi, qu'il y a là un gisement de croissance, qu'il y a là un gisement de déficit. Et c'est consternant de voir qu'on n'a même pas essayé de vouloir faire pour ne pas déplaire Madame Duflot.
Le principe de précaution est une idéologie. C'est même une idéologie revendiquée. Et il faut bien dire que c'est Jacques Chirac qui l'a constitutionnalisé.
Cela dépasse très largement aujourd'hui. Oui. C'est le principe de précaution, c'est le principe de l'immobilisme.
Je suis d'accord avec Alain Duhamel sur le caractère anti-scientifique de cette absence de recherche qui est assez accablant. Vous savez, on a commencé à mettre les transcirculations, il y en a certains qui disaient que ça décollerait les rétines parce que l'œil devait suivre le mouvement du train.
Et qu'on est tout frais dans les tunnels.
Mais alors, moi, je propose une solution parce que la question est de savoir qu'on dit on est assis sur un tas d'or. Mais qui est assis sur un tas d'or ? Aujourd'hui, ce sont les municipalités, les pouvoirs publics qui sont assis sur un tas d'or. Pourquoi ? Parce que le code minier français fait que quand vous n'êtes pas propriétaire de la terre, en fait, vous êtes propriétaire de la terre, mais dès qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la terre, vous êtes de facto exproprié. Donc, en fait, en France, vous êtes propriétaire des vers de terre. Nous, ce qu'on propose, c'est de s'inspirer du modèle suédois. Dans le modèle suédois, vous faites 50-50, en fait, entre le propriétaire de la terre et l'État ou la municipalité. Et du coup, les gens s'intéressent davantage à ce qu'ils ont sous leurs pieds. Parce qu'on peut dire à nos auditeurs, finalement, aujourd'hui, vous avez du gaz de schiste, vous vous en fichez complètement, puisque c'est la commune qui va toucher faire une salle des fêtes. Demain, si vous êtes propriétaire de la terre, si c'est vous qui négociez par des mécanismes qu'il faudra mettre en place directement avec les compagnies d'extraction, tout d'un coup, vous allez réfléchir différemment au problème du gaz de schiste si vous avez 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros sous vos pieds. Et donc, il y a une réforme du code minier en cours. Et moi, je pense que cette réforme, évidemment, ça ne sera pas le cas, mais devrait aller vers une privatisation du droit du sous-sol en France.
Allez, pour conclure, Gérard Miller.
Ce qui me frappe, c'est l'usage de ce terme de principe de précaution. Est-ce que je me trompe là aussi ? Mais j'ai quand même l'impression.
Pourquoi là aussi ?
Parce que je me trompe souvent dans la vie.
Non.
Est-ce que je me trompe là aussi en pensant que le gaz de schiste a déjà prouvé à quel point il était nuisible ? Vous évoquez le train comme si on était des passéistes dès le moment où on critiquait le gaz de schiste. On sait que ça nuit à l'environnement. On sait que ça nuit au climat.
Il y a des gens qui disent
qu'il y
a des gens, des scientifiques. Non,
ça dépend comment on l'extrait, c'est toute la difficulté. On va s'arrêter là sur le gaz de schiste.
On sait aussi quand même, parce que ça a été... On a pu le mesurer. On sait aussi quand même que ça a largement contribué à la reprise de la croissance aux États-Unis.
Et comment ?
Allez, à suivre.
Ça a bouleversé ses alliances avec les États-Unis.
Et nos chimistes en sont furieux.
À suivre, la vente Dailymotion à Vivendi, c'est quasiment fait. Comme l'annonçait tout à l'heure le PDG d'Orange sur RTL, on en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchier.
On refait le monde à 19h51 avec Ivor Youfol, Alain Duhamel, Gaspard Koenig et Gérard Miller. Dailymotion donc ne passera pas sous pavillon américain ou chinois, il restera français. Vous avez entendu tout à l'heure dans RTL Soir, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, propriétaire de la plateforme de vidéos en ligne, annonçait que son conseil d'administration venait de valider donc l'offre de Vivendi. Ce soir, vous saluez ce choix franco-français où le groupe Vivendi n'aura pas les ressources pour faire de Dailymotion un concurrent crédible au géant américain YouTube. Et le sujet, c'est également le patriotisme économique. Est-ce qu'il peut s'appliquer sur Internet, alors que c'est bien un endroit où les frontières n'existent pas, Gaspard Koenig ?
Mais il peut s'appliquer nulle part,
nulle part, peut-être que
c'est. Si, non, à part quelques. Il y a dans le code monétaire et financier des dispositions assez précises sur les questions de sécurité publique ou de défense nationale, où effectivement l'État a son mot à dire pour protéger des industries.
Ou d'intérêts stratégiques.
Des industries exactement, véritablement stratégiques. Enfin, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Dominique de Villepin s'opposait au rachat de Danone en 2005, on voit pas ce que les yaourts ont stratégique. Stéphane Richard lui-même, avant de dire ça, disait que les raisonnements de patriotisme économique appliqués à l'Internet sont des inepties.
Il le dit toujours.
Et je suis quand même assez déçu que Macron reprenne la rhétorique de Montebourg sur ce sujet. Je pense que l'État n'a absolument plus rien à faire au capital d'Orange. Ça réglerait donc le problème s'il s'en défaisait.
Si jeune et si libéral.
Et que tout ça. Mais oui, mais parce que moi je pense au développement de mon pays, je pense au bonheur des gens et je pense c'est absolument pas une dérégulation absolue, c'est au contraire une régulation de bonne et saine concurrence. C'est aujourd'hui qu'il n'y a pas de régulation, c'est aujourd'hui qu'il y a l'arbitraire du pouvoir d'État qui vous dit vous avez le droit ou non de faire cet investissement. C'est aujourd'hui l'arbitraire parce que les règles ne sont pas respectées.
Il faut déjà rappeler que l'État est au capital d'Orange, donc à ce moment-là, dans ce cadre-là.
Ça me semble. Non, mais je veux dire, je ne suis pas absolument pour produire français, pour que tout soit français, mais enfin, chaque jour, on apprend qu'une entreprise de plus française passe sous contrôle chinois ou qatari. Très bien, pourquoi pas ? Je suis pour la libre concurrence.
L'inverse.
Enfin, de temps en temps, je ne sais pas, je ne suis pas d'un nationalisme achevelé. Et en même temps, à partir du moment où effectivement l'État avait son mot à dire, je ne vois pas pourquoi il ne le dirait
mais
pas
l'inverse,
dans un cas comme
mais l'inverse,
ça. Qu'est-ce que vous rêvez exactement comme monde ?
Mais l'inverse existe aussi. Aujourd'hui, on voit toujours les entreprises qui partent ou qui se font racheter. Et évidemment, on ne remarque jamais les entreprises qui arrivent. La France est le quatrième pays au monde pour les investissements étrangers. C'est 18 000 filiales de groupe employant 1,7 million de personnes sur le territoire. On est tellement bon en France, on a de tellement bonnes entreprises, un tel savoir-faire, qu'au contraire, on n'a rien à craindre de l'ouverture des frontières, de l'ouverture de nos entreprises. Et après tout, une entreprise peut rester française, peut faire des produits français, peut avoir un label français, peut avoir des gouvernants français, tout en ayant des capitaux qui viennent du monde entier. Ne soyons pas, comme vous le disiez, nationalistes, parce que je trouve que cette résurgence du nationalisme en matière économique ne fait que refléter la résurgence du nationalisme en matière politique.
En l'espèce, Alain Duhamel, ça a failli être vendu à des Chinois, ça aurait été une ouverture incroyable sur un marché chinois en plein développement. Est-ce que ce n'est pas dommage, sous prétexte donc de faire du franco-français, même si Vivendi est un groupe international, de s'être passé de cette opportunité-là incroyable?
Ça peut se défendre, on peut même soutenir le fait que, compte tenu de l'hégémonie américaine sur Internet, le fait que les Chinois puissent y mettre les pieds de façon liée à ce que nous savons faire, ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Et effectivement, l'idée selon laquelle c'est considéré comme stratégique, ça me paraît abusif.
Et donc, on aurait mieux fait de laisser faire.
Oui.
C'est ce que vous pensez?
Non, pas seulement de laisser faire.
D'encourager, de faire, carrément, d'être proactif.
Et de préférence en les faisant payer davantage.
Alors là, il faut quand même rappeler que ce n'est pas totalement la même offre, puisque Stéphane Richard nous disait aussi qu'il ne rachetait que 49% du capital, là où Vivendi en rachète 80%, sur des sommes inférieures. Donc il y a aussi ça qui rentre en jeu. Yvan Youfol ?
Donc, je trouve que l'État n'est pas suffisamment bon gestionnaire pour se permettre en plus de donner son avis sur des stratégies industrielles qui ne concerne que le privé, même si effectivement l'État a une participation dans Orange. Et je trouve que la préférence nationale ou européenne peut parfois se défendre, mais qu'elle est saugrenue dans un marché mondial, vous l'avez dit. Et on ne comprend pas, en effet, comment cette entreprise va pouvoir entrer en concurrence avec le leader mondial qui s'appelle YouTube et qui a besoin et qui fonctionne avec des milliers... Enfin,
je crois qu'il est 30 fois supérieur à...
Et donc, on voit bien là que cette option est une option, encore une fois, politique, alors qu'on attendait une option économique et que je ne vois pas, a priori, l'intérêt de ceci. D'autant qu'en plus, il y a une sorte d'illogisme à voir que le gouvernement a accepté les Chinois. Ce sont des Chinois, des Chinois de Hong Kong qui devaient venir préalablement, acceptent des Chinois... Acceptent des Chinois chez Peugeot, au Club Med, à l'aéroport de Toulouse, mais le refuserait aujourd'hui pour cette entreprise de Dailymotion. Donc, je n'en comprends pas la logique. Je ne vois simplement qu'un coup politique pour essayer de calmer, effectivement, cette angoisse identitaire, cette angoisse nationaliste. Elle ne répond pas à la question.
C'est formidable, cette opposition entre économique et politique. Évidemment que c'est politique. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de la politique dans les questions économiques? Moi, ça ne me choque pas du tout.
Il pourrait y avoir sur les grandes options politiques.
Mais je me rends compte que je suis le dernier ici à souhaiter plus d'État. Ben, c'est vrai que je n'ai aucune confiance dans les Chinois lorsqu'ils sont des capitalistes comme les Américains. Je n'ai aucune confiance. Je n'ai aucune confiance dans l'État.
J'ai confiance dans l'État qui régule, pas dans un État qui intervient et qui prend lui-même les décisions économiques. Et un État qui régule bien. Aujourd'hui, il prend les décisions.
On s'arrête là, Gaspard.
Et moi, je crois que les politiques ne sont pas les plus qualifiées pour prendre des décisions économiques.
Merci à tous les quatre. Merci à Alain Duhamel, à Yvan Youfol, à Gaspard Koenig, et donc auteur du livre Le Révolutionnaire, l'Expert et le Geek, combat pour l'autonomie chez Plon. Merci Gérard Miller.